Comme les heureux retraités, dès votre entrée dans la vie active, pensez à assurer vos vieux jours chez Suno Assurance, qui vous propose Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. C'est à Port-au-Prince que nous vous retrouvons pour une série d'émissions qui, nous l'espérons, vont nous permettre de mieux connaître la situation sanitaire ici en Haïti. Rencontrer des soignants, des patients, essayer de comprendre les attentes et les besoins en matière d'accès aux soins. Et c'est au cœur de l'hôpital Saint-Damien, situé sur la commune de Tabar, que nous avons installé le studio de Priorité Santé pour rencontrer une équipe engagée dans la lutte contre la maladie génétique la plus fréquente au monde. Cette maladie, c'est la drépanocytose, maladie héréditaire qui touche les globules rouges et que l'on appelle ici anémie falciforme. En Haïti, aucune étude fiable n'a été menée sur la maladie et donc impossible de connaître avec précision le nombre de cas. La drépanocytose serait moins fréquente dans la Caraïbe qu'en Afrique, mais dans cette structure de Saint-Damien, ce ne sont pas moins de 1500 enfants drépanocytaires qui sont pris en charge dans le cadre d'un projet pilote conduit par la Fondation Pierre Fabre. Un programme axé sur le dépistage, la sensibilisation et la prise en charge de l'anémie falciforme, formation, éducation thérapeutique, traitement gratuit, une offre de soins pluriels et adaptés, avec comme maître mot la prise en charge précoce pour améliorer la qualité de vie des enfants concernés. Projet pilote de la prise en charge de la drépanocytose en Haïti, une émission de Priorité Santé avec le soutien de la Fondation Pierre Fabre. Avec nos invités, Dr Jacqueline Gauthier, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes directrice nationale de santé de l'hôpital Saint-Damien, nos petits frères et sœurs ici à Tabar. Docteur Nora Saint-Victor, bonjour.
Bonjour Madame Paré.
Vous êtes ici coordinatrice de ce projet de dépistage néonatal de l'anémie falciforme. Avec nous aussi Véronique Tessier, bonjour.
Bonjour Caroline.
Responsable des programmes de la Fondation Pierre Fabre. Avec nous également pour témoigner sur cette anémie falciforme pédiatrique, sur le vécu de la maladie, une jeune patiente. Tu t'appelles Rachel, bonjour.
Bonjour.
Alors dans cette émission, on va bien sûr évoquer les spécificités de prise en charge ici en Haïti, mais on va d'abord commencer bien sûr par fixer les choses. Cette anémie falciforme, cette maladie, je le disais tout à l'heure, docteur Nora Saint-Victor, la maladie génétique la plus fréquente au monde, dans falciforme, il y a une racine, il y a un mot qui en dit long sur l'origine, la nature de la maladie, falciforme comme faucille. Pourquoi on emploie ce terme? Pourquoi on appelle cette maladie de cette façon?
Le terme anémie falciforme est utilisé, c'est pour expliquer que les globules rouges, qui normalement sont de forme ronde, comme un disque biconcave, sont déformés. Donc au lieu d'avoir la forme ronde, ils ont une forme en faucille. C'est la déformation des globules rouges qui va entraîner tous les signes et symptômes qui caractérisent la maladie.
Alors c'est peut-être pour ça aussi que jusqu'à présent, docteur Nora Saint-Victor, il n'y a pas de médicaments pour se débarrasser de la maladie, parce que c'est vraiment, on va dire, une maladie qui est dans la structure même de l'organisme, dans la nature du sang.
C'est exactement ça. Donc c'est une maladie qui est due à une mutation génétique. Cette mutation génétique va créer une déformation de l'hémoglobine, parce que l'hémoglobine normale, c'est l'hémoglobine A, mais avec la mutation, on va avoir la formation de l'hémoglobine S qui est pathologique, ce qui va entraîner une déformation des globules rouges qui vont avoir tendance à obstruer la circulation sanguine normale.
Alors on imagine, quand la circulation est comme ça bouchée, docteur Nora Saint-Victor, il y a des conséquences pour la santé.
C'est la base, les symptômes reposent exactement sur ça. À cause de l'obstruction, l'occlusion des vaisseaux sanguins par les globules rouges falciformés, les globules rouges déformés, donc le sang n'arrive pas aux organes, donc on a des phénomènes de manque d'oxygène, c'est ce qui va entraîner les signes et les symptômes de la maladie.
Alors ici, on est dans un hôpital pédiatrique. Docteur Jacqueline Gauthier, depuis quand votre structure de sang s'est-elle justement arrêtée, intéressée à cette maladie, l'anémie falciforme, pour devenir l'hôpital de référence ici en Haïti?
Depuis les années 90, où nous existions à une autre adresse, à Pétionville, nous nous sommes intéressés à avoir une clinique dédiée à la population d'enfants avec anémie falciforme, c'était au début surtout pour cibler les messages aux parents. C'était un peu plus facile, non seulement de les avoir le même jour pour pouvoir éduquer mieux en ciblant les messages, et aussi en améliorant la logistique et aussi pour faciliter le travail des soignantes. Donc, ça fait près de 20 ans. Mais à l'époque, nous n'avions pas encore le dépistage néonatal. Nous nous intéressions à aider les enfants à vivre mieux. Nous nous intéressions à les aider à prévenir des maladies infectieuses auxquelles ils sont sujets plus facilement qu'un autre enfant normal.
Aujourd'hui, quand on emploie en Haïti le mot d'anémie falciforme, est-ce que ça parle à la population, docteur Jacqueline Gauthier? Est-ce que les gens sont au courant que ça existe, des conséquences, ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire en termes justement de diffusion de l'information?
Oui, beaucoup de gens sont au courant. Malheureusement, les informations doivent être plus claires, parce que souvent ici, quand on parle d'anémie, on pense à problèmes de nutrition, parce qu'on confond toutes les anémies ferriprives, les anémies avec d'autres manques, avec l'anémie falciforme qui est une maladie génétique.
Les parents peuvent se dire, je ne vois pas pourquoi mon enfant aurait un problème de sang alors qu'il mange bien.
Voilà. Ou bien, lorsqu'ils ont appris que l'enfant a une falciforme, ils pensent qu'ils doivent vraiment faire nourrir mieux et donner davantage de médicaments s'ils ne sont pas bien éduqués.
Cette sensibilisation, cette information, on peut la faire de façon concrète. Ça se fait ici en Haïti. Comment? Avec des messages qui sont diffusés par quels moyens?
Lors des cliniques, lors des rendez-vous des enfants, il y a des séances d'éducation. Il y a aussi des associations. Il y a une association haïtienne de maladies à une falciforme qui s'intéresse à la question et qui aide. Mais il y a aussi des croyances superstitieuses.
Par exemple, un mauvais sort de jeter sur la famille.
Un mauvais sort.
Donc, il faut retirer ces idées de la tête.
Il faut enlever ces idées de la tête et penser que c'est une anémie et comprendre ce que c'est afin de prévenir, comme disait Nora, les crises que ces enfants peuvent présenter.
Alors, on s'intéresse à ce qui se passe ici à l'hôpital Saint-Damien, un grand projet qui a été lancé, Véronique Tessier. Ce projet, il est mis en place depuis moins d'un an. D'où est venue l'idée et comment ça se passe sur le terrain?
Il faut dire que la drépanocytose, c'est une longue histoire aussi pour la Fondation Pierre Fabre, puisque nous, ça fait déjà plus de 12 ans que nous sommes impliqués sur cette pathologie, notamment avec la création d'un centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose à Bamako. Depuis lors, c'est 9 programmes que nous suivons dans une dizaine de pays. Et nous avons été effectivement approchés par les cliniciens d'Haïti il y a déjà quelques années. Et c'est vraiment à partir de 2017 que l'idée avec le docteur Gauthier, mais également avec d'autres cliniciens de l'hôpital universitaire d'État d'Haïti et l'hôpital universitaire de la paix, où on a travaillé à l'élaboration de ce programme qui lie effectivement du dépistage néonatal et précoce, de la prise en charge et un soutien aussi à cette association dont parlait le docteur Gauthier pour renforcer aussi la connaissance de la population sur cette pathologie.
Alors justement, quand on arrive dans un pays, on a besoin de données épidémiologiques. Véronique Tessier, qu'est-ce qu'il en est ici? Quand vous avez lancé avec votre fondation ce projet notamment de dépistage, est-ce que vous aviez des chiffres pour avoir en fait un état des lieux?
Alors nous avions des chiffres, mais les données sont vraiment parcellaires sur justement la fréquence de la prévalence à la naissance de cette maladie. Et dans tous nos programmes, nous avons toujours l'habitude de rencontrer les ministères de la Santé, parce que nous faisons toujours nos programmes dans la cohérence des programmes sanitaires qui sont menés dans les pays où nous intervenons. Et effectivement, la première question qu'on nous pose, c'est quoi la fréquence de la drépanocytose dans notre pays? Quel est le nombre de personnes qui sont atteintes? Combien de jeunes enfants naissent avec la drépanocytose? Donc effectivement, il y avait une étude qui avait été menée ici au sein de Saint-Damien il y a quelques années, qui avait permis de démontrer que environ 0,6% des nouveau-nés étaient drépanocytaires, naissaient drépanocytaires. Mais effectivement, ce programme de dépistage que nous sommes en train de mettre en place actuellement à Saint-Damien nous permettra aussi de pouvoir avoir ces données qui alimenteront aussi les services du ministère pour pouvoir mettre en place une prise en charge adaptée.
Alors on a bien entendu, docteur Nora Saint-Victor, ce terme de porteur, pour que les personnes qui nous écoutent comprennent bien. Maladie génétique, ça veut dire qu'il peut y avoir un parent, les deux parents, et tout ça, ça peut conditionner la fréquence aussi bien que la gravité de la maladie, c'est ça?
C'est une maladie qui est transmise par les deux parents. Donc, pour être atteint, disons qu'on doit avoir la transmission, le gène transmis par les deux parents. Donc, il y a les porteurs. Quand on essaie d'expliquer aux parents c'est quoi un porteur, moi-même, je dis carrément, c'est quelqu'un qui a la trace ou bien le trait de la maladie, mais qui n'est pas symptomatique. Alors que pour les personnes qui sont malades, ceux qui souffrent du syndrome drépanocytaire majeur, ce sont ces enfants-là qui sont symptomatiques. Par exemple, pour l'étude qui a été menée à Saint-Damien, comme l'a dit Madame Tessier, on a eu à peu près 0,66% de malades, alors que on a eu 12% d'enfants avec le trait drépanocytaire. Donc, ces enfants-là ne sont pas symptomatiques, mais ils sont capables de retransmettre la maladie.
Docteur Nora Saint-Victor, à vos côtés, Rachel, une jeune patiente, sans rentrer dans une description trop matérielle de son cas, Rachel est atteinte du syndrome drépanocytaire majeur, c'est bien cela ?
Oui, c'est ça.
Rachel, je vais te demander de témoigner sur ta maladie, sur ton expérience. C'est forcément important parce que nous, quand on n'est pas concerné, on ne sait pas ce que ça fait exactement, aussi bien dans notre corps que ce que ça a comme retentissement sur notre vie. Est-ce que tu arrives à expliquer ce qu'est ta maladie quand quelqu'un te pose une question ?
Oui. Ma maladie, ça nous donne de graves douleurs et ça nous fait nous sentir mal. Et je crois que la maladie anémie falciforme, comme on l'appelle, c'est une maladie qui atteint les globules rouges pour les déformer.
Toi, tu as su que tu étais malade comment ? Parce que tu avais des douleurs, justement ?
Oui. J'avais des douleurs à l'âge de 3 ans et mes parents sont allés à plusieurs hôpitaux. Mais c'est à l'hôpital Saint-Damien qu'on a fait les diagnostics pour nous dire que je suis atteinte d'anémie falciforme.
Et tu as eu mal longtemps avant qu'on trouve le nom de la maladie ? Est-ce que certains médecins ne savaient pas ce que tu avais ou tout de suite on a dit on pense que c'est l'anémie falciforme, c'est pour ça que tu vas à Saint-Damien pour y être soignée ?
Non, les médecins des autres hôpitaux n'ont pas su ce que j'avais vraiment. C'est à l'hôpital Saint-Damien qu'on nous a dit que j'étais atteinte d'anémie falciforme.
Alors tu disais tu avais des douleurs, mais maintenant je te vois à côté de moi, tu as l'air en bonne forme, tu es souriante, tu as l'air vraiment bien dans ta peau. Ça fait combien de temps que tu n'as pas eu mal ?
Ça va faire à peu près 4 ans à l'aide d'un traitement, l'hydroxyurée, qu'on nous a donné à l'hôpital Saint-Damien, des cachets et des sirops.
Est-ce que c'est pénible de prendre un traitement tous les jours ?
Pas vraiment. Parce que moi, je me dis que si je prends ce traitement, je vais me sentir mieux, je ne vais pas avoir de douleur. Alors pour moi, ce n'est pas vraiment terrible.
Mais malgré tout, tu dis que ce n'est pas trop compliqué. Des fois, ta maman, elle ne doit pas être un petit peu derrière toi pour te dire « Rachel, prends ton traitement ?»
Oui. Des fois.
Ça sert aussi à ça, une maman. Alors, docteur Jacqueline Gauthier, des enfants comme Rachel, combien sont suivis à l'hôpital et quel est leur profil ? D'où viennent-ils ?
Notre hôpital, c'est le seul hôpital pédiatrique du pays. Ça veut dire que nous desservons en majorité la zone du nord de Port-au-Prince, mais un peu partout. Dès que les cas pédiatriques se compliquent dans n'importe quel domaine, hématologique ou cardiaque ou rénal, on pense à nos petits frères et sœurs parce que nous avons la plus forte concentration de pédiatres au service de la population. Ça veut dire que nous avons 1500 enfants qui viennent en majorité de Port-au-Prince, mais au-delà de Port-au-Prince. Nous ne sommes pas exactement le seul centre qui s'occupe d'anémie falciforme. Et de plus en plus, puisque nous faisons partie aussi d'une société de pédiatres haïtiens, où tout le monde travaille vers l'amélioration de la qualité de vie des enfants atteints d'anémie falciforme. Donc, dans le nord du pays, il y a un programme qui a ouvert. Il y a deux programmes qui ont ouvert dans le centre du pays également. Et les premiers résultats pour retourner à l'épidémiologie concourent à montrer que c'est à peu près la même prévalence de la maladie, 0,6 pour l'anémie drépanocytaire. Donc oui, nous avons 1500 qui viennent de partout, mais a priori de Port-au-Prince.
Alors 1500, c'est ce qu'on appelle la cohorte. Docteur Nora Saint-Victor, qu'est-ce que ça veut dire quand on a un enfant qui a la drépanocytose, l'anémie falciforme, d'appartenir à cette cohorte ? Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, on vient combien de fois ? Et puis aussi, une question très importante quand on n'a pas beaucoup de ressources et en général pour se soigner, qu'est-ce que ça va coûter à la famille ?
Donc, ces enfants que nous suivons à la clinique de l'anémie falciforme, donc nous offrons, disons, un suivi régulier. On les voit 3 à 4 fois par an ou bien 2 fois par an, dépendamment de l'enfant. Ils n'ont pas vraiment un frais à payer. Pour ça, c'est juste ce qu'on appelle une participation qui est vraiment minime. Avec cette participation qu'ils donnent, ils ont droit aux soins, donc à la visite médicale et puis aux médicaments aussi. Ce qu'on offre n'équivaut pas vraiment à la participation vraiment qu'ils donnent.
Vous voulez réagir, docteur Jacqueline Gauthier?
Je veux dire qu'on peut compter, et ceci, c'est pas seulement pour l'anémie falciforme, que la participation des patients couvre 15%.
Et vous êtes financé comment alors?
Nous sommes financés à partir de collectes de fonds internationaux, comme par exemple ce partenariat avec Fondation FAB qui va couvrir les frais de cette maladie. Nous avons d'autres institutions ou fondations qui nous aident avec des programmes bien déterminés. Et d'une façon générale, nous comptons sur 15% de la participation des patients pour les frais.
Alors, protocole d'annonce, première information, hein, dire aux parents, voilà, votre enfant, quand il y a eu le dépistage. On va reparler tout à l'heure du dépistage, bien sûr. Comment ça se passe, docteur Nora Saint-Victor, quand on doit dire à un papa, à une maman, votre enfant a une maladie et cette maladie, il va l'avoir toute sa vie?
Là, maintenant, on n'a pas encore débuté avec notre dépistage néonatal. Mais dans la clinique, il y a continuellement de nouveaux cas qui sont référés à l'hôpital Saint-Damien. Comme docteur Gauthier a dit, c'est un hôpital de référence. Donc, on doit toujours annoncer aux parents que votre enfant a effectivement de l'anémie falciforme, parce que généralement, ils sont déjà plus ou moins avertis, parce que soit ils viennent sous référence ou bien le diagnostic se fait à l'hôpital. Donc, ce qu'on essaie de faire comprendre aux parents, c'est que madame, votre enfant a de l'anémie falciforme. C'est quelque chose qui est dans le sang. Donc, on essaie d'utiliser, disons, une terminologie assez simple. Donc c'est quelque chose qu'ils ont dans le sang, donc ils vont vivre avec. Moi-même j'insiste parfois, ils vont rester avec, mais il y a des moyens pour éviter que votre enfant soit fréquemment malade. Il faut dire que franchement, avec ce traitement, on a vraiment des résultats. Même si on ne peut pas offrir l'hydroxyurée, par exemple, à tout le monde, rien qu'avec une bonne hygiène diététique, l'hyperhydratation, on explique aussi les signes de danger. OK, je vous donne rendez-vous dans 3 mois. Mais si votre enfant a tel ou tel signe, vous devez venir tout de suite à l'hôpital. Donc, c'est comme ça qu'on fait. Parce que parfois, les parents sont étonnés. Donc, moi-même, je ne suis pas malade. Mon mari n'est pas malade. Pourquoi mon enfant est malade?
Parce que c'est une maladie invisible, donc, et puis elle arrive des fois.
C'est à moi d'expliquer que peut-être le papa est porteur, que peut-être vous-même aussi vous êtes porteuse, et puis là maintenant, donc votre enfant est malade. Donc votre enfant sera malade toute la vie, mais avec ce que nous vous offrons à Saint-Damien, vous pouvez améliorer la qualité de vie de l'enfant.
Rachel, j'ai une question à te poser. Est-ce qu'on se sent mieux quand on sait ce qu'on a? Par exemple, tu disais tout à l'heure que tu avais ces douleurs. Tu disais aussi que les médecins s'étaient trompés, ils avaient mis un petit peu de temps à te donner le nom de ta maladie. Est-ce que c'est plus simple de vivre quand on sait ce que l'on a?
Oui, c'est plus simple parce qu'on sait ce qu'on a et on sait ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Par exemple, le sport. Depuis toute petite, on me dit que je ne peux pas faire le sport parce que on m'avait dit que je n'avais pas assez d'oxygène. Si je fais le sport, comme par exemple pratiquer le basket, c'est pas bon pour moi et pour la maladie.
Docteur Nora Saint-Victor, est-ce que vous confirmez à Rachel qu'il y a certaines activités qu'il vaut mieux qu'elle évite? Mais malgré tout, on imagine que pour un enfant, une jeune fille en pleine croissance, il faut quand même qu'elle ait une activité physique.
L'hémoglobine S se forme quand le taux d'oxygène est bas. Donc les cellules ont tendance à faire une falciformation quand il y a un taux d'oxygène bas. Imaginez-vous, on déconseille la nage, on déconseille certains sports. Par contre, on encourage l'enfant à consommer beaucoup plus d'eau. Donc avec une activité physique, donc nous sommes dans un pays tropical, donc ça va provoquer plus de crises pour un enfant qui est déjà mal.
Donc une activité physique, mais bien contrôlée, avec beaucoup, beaucoup d'hydratation et certaines choses qui sont trop intensives. On imagine l'endurance, en tout cas pas de marathon, tout ce qui est très, très fatigant. Alors, on reste ensemble, hein. Mesdames Rachel, on va se retrouver dans quelques minutes pour poursuivre cet échange. Mais on va partir pour une petite visite dans le service où sont hospitalisés les enfants. Ils reçoivent le traitement, bien sûr. On peut aussi gérer certaines complications. On part avec Ophélie Lassène à la rencontre de l'équipe soignante. Entretien tout de suite avec Marie-Ginette Mathieu, infirmière de salle.
Moi, je voulais prendre soin de tous les enfants qui sont à la salle orange. Ordinairement, ils viennent soit de la salle d'urgence, soit des soins intensifs, mais ce sont des enfants, mais des filles de 1 jusqu'à 14 ans.
Ces patients, qu'est-ce qu'il se passe ? Donc ils arrivent parce qu'ils ont des symptômes, des complications. Comment est-ce que vous les prenez en charge ?
Ordinairement, ils arrivent à la salle d'urgence où on fait les premiers soins. Quand ils arrivent à la salle orange, ils ont déjà reçu les premiers soins, mais on fait la continuité des soins. On fait la réhydratation, on donne des analgésiques pour les douleurs. Ensuite, s'il faut faire des transfusions, on les fait. Ensuite, on fait des hémogrammes, des examens pour évaluer la quantité de sang et tout ça. Au fur et à mesure, on évalue les enfants. S'il faut les exhiater, les médecins sont là pour ça.
Et vous êtes combien d'infirmières à travailler ici ?
On est 4, on fait par relève, mais ordinairement on travaille seul, une infirmière.
J'imagine que par moment on vous amène les enfants de manière assez tardive, quand les complications sont plus graves, est-ce que ça arrive ça ?
Oui, parfois il y a des enfants qui viennent avec un taux d'hémoglobine à 2, et dans ces cas-là, on les prend en charge en bas, à la salle d'urgence, mais s'il n'y a pas de sang disponible, on a besoin de place à la salle d'urgence, on les réfère ici. Et là, il faut faire des démarches à la Croix-Rouge, tout ça, pour avoir le sang pour les transfuser.
Il y a combien de lits ici dans cette salle ?
Il y a 12 lits.
Et aujourd'hui, combien d'enfants atteints d'anémie falciforme sont hospitalisés ?
Une seule, pour le moment.
L'infirmière de salle Marie-Ginette Mathieu avec Ophélie Lassène. On va retrouver tout de suite nos invités dans Priorité Santé sur RFI.
Tu veux parler ?
Priorité Santé.
Tu veux parler dans le micro ?
Sur RFI. Port-au-Prince, 89.3 FM.
Et on poursuit cet échange sur la prise en charge de l'anémie falciforme en Haïti avec nos invités. Docteur Jacqueline Gauthier, directrice nationale de santé de l'hôpital Saint-Damien à Tabar. Véronique Tessier, responsable des programmes de la Fondation Pierre Fabre. Rachel, écolière, élève au collège qui est venue témoigner sur sa maladie. Et docteur Nora Saint-Victor, coordinatrice du projet de dépistage néonatal. On entendait tout à l'heure besoin de sang, docteur Nora Saint-Victor. C'est une question qui vous tient particulièrement à cœur. C'est une question clé pour la prise en charge des enfants ici à Saint-Damien.
Effectivement, Madame Paré, là maintenant à l'hôpital, on a besoin de sang, non seulement pour nos enfants drépanocytaires, pour les autres aussi. Donc, la demande dépasse largement la disponibilité du sang qu'on a à l'hôpital. Donc, j'aimerais lancer un appel à nos auditeurs pour qu'ils soient conscients vraiment du besoin de sang que nous avons à l'hôpital.
Cet appel, concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gens doivent se rendre à l'hôpital et vous leur proposez de prendre du sang. Tout ça, ça se passe de façon complètement sécurisée. Il faut rassurer les gens, ce n'est pas douloureux et évidemment, il n'y a pas de conséquences sur leur propre santé, même s'il y a un certain nombre de conditions pour pouvoir donner son sang.
Évidemment, il y a des conditions pour recevoir le don de sang. Donc là, maintenant, avant de prendre, la Croix-Rouge s'assure que la personne est vraiment en mesure de donner. Mais il n'y a pas vraiment de risque pour la santé de ceux qui donnent. Au contraire, c'est un geste assez généreux qui sauve la vie de nos enfants. Donc, si une personne veut donner son sang pour aider les autres, vous pouvez contacter l'hôpital Saint-Damien et laissez votre numéro, comme ça, on rentrera en communication avec vous.
Alors, c'est important pour pouvoir soigner les enfants qui ont donc la drépanocytose, cette anémie falciforme. Ici, c'est un programme en 3 volets qui est proposé. Véronique Tessier, on va détailler les 3 aspects de ce projet. C'est un petit peu l'articulation de votre travail. Dépistage, sensibilisation, prise en charge. En fait, il ne faut absolument rien négliger de ces 3 aspects.
Tout à fait. C'est sûr que si on s'engage à faire du dépistage, à annoncer, comme vous le disiez, à des parents qui peuvent être très démunis face à l'annonce que leur enfant est malade. Et si derrière, on n'a pas de proposition de soins à leur offrir, c'est pas envisageable. Enfin, la Fondation Pierre Fabre, nous ne fonctionnons pas comme ça. Et c'est vrai que cette drépanocytose, anémie falciforme, la prise en charge que nous facilitons à nos partenaires, elle est holistique, c'est-à-dire qu'elle prend en charge à la fois la sensibilisation pour une meilleure connaissance de la maladie par la population, par les patients eux-mêmes et par leur famille, même parfois par les soignants, une formation renforcée, une amélioration du soin par un accès à une thérapeutique adaptée. Et effectivement, le dépistage, c'est aussi un moyen de, comme le disait le docteur Saint-Victor, de pouvoir diagnostiquer précocement et de pouvoir prendre en charge et donner une prise en charge et une couverture vaccinale précoce qui évitera la survenue de complications.
Docteur Nora Saint-Victor, le mot de prise en charge vaccinale, mieux protéger les enfants, parce que quand on est drépanocytaire, quand on a l'anémie falciforme, eh bien, on est plus sensible, on est plus vulnérable. C'est bien ça.
Effectivement, ces enfants-là sont plus à risque d'avoir les pathologies infectieuses. Donc, nous conseillons toujours aux parents de bien faire vacciner leurs enfants pour les protéger.
Alors, les aspects du projet qu'on a abordé avec vous, Véronique Tessier, il y a aussi une part de formation des personnels. Et là, c'est très important d'avoir des soignants compétents pour aborder la spécificité, tout ce qu'il y a de particulier dans cette maladie.
Tout à fait. C'est une maladie qui nécessite une prise en charge tout à fait adaptée. Et on rencontre beaucoup dans nos programmes en Afrique, justement, un déficit de formation de ces personnels de santé qui amène parfois un parcours thérapeutique qui est vraiment mauvais et qui, justement, favorise la survenue de ces complications et de ces crises. Donc, nous axons beaucoup nos interventions, nos programmes sur la formation, le renforcement des personnels de santé à la prise en charge et notamment sur la douleur, puisque c'est aussi un des points très marquants de la drépanocytose, les crises douloureuses.
Par exemple, pour ce dont Rachel nous parlait tout à l'heure, éviter les erreurs de diagnostic, les errances de diagnostic, retarder la prise en charge, c'est important. Qu'aujourd'hui, un certain nombre de soignants ne savent pas encore reconnaître les signes.
Dans certaines structures, en dehors des capitales, effectivement, les soignants ne sont pas en mesure d'identifier une drépanocytose, une anémie falciforme sur les patients qu'ils rencontrent.
Docteur Jacqueline Gauthier, on va justement donner des clés à celles et ceux qui nous écoutent. Des grands signes, on a parlé bien sûr de la douleur, on y pense tout de suite quand on parle de la drépanocytose. On a un enfant qui se sent mal, qui a des signes particuliers. Quand est-ce qu'on peut penser que c'est l'anémie falciforme ?
L'enfant aura des douleurs particulièrement aux extrémités, aux doigts et aux orteils, qui gonflent. Il ne veut pas qu'on y touche. Ça, c'est un des premiers signes et ça peut arriver dès l'âge de 6 mois. Il y a aussi la pâleur, parce que comme le nom l'indique, c'est une anémie. Donc, le taux de globules rouges diminue, donc le taux d'hémoglobine avec. Donc, l'enfant devient plus pâle. Il y a aussi le fait que du côté du ventre de l'enfant, ça gonfle du côté gauche parce que l'organe qui s'appelle la rate peut carrément attirer tout le sang dedans. Parce que notre rate nous permet de filtrer le sang et ce qui n'est pas bon. Donc, quand la rate ne reconnaît pas vraiment ce globule rouge, comme par les Nora qui devient déformé, la rate entre en action pour nous en débarrasser.
Ça veut dire qu'un médecin, en palpant cet endroit
même
du corps...
Même pas un médecin, même un parent. Il connaît la forme du ventre de son bébé et touche le côté gauche et trouve que c'est un peu plus dur et c'est un peu plus gros. Ça, c'est aussi un signe. Il y a des complications plus graves, comme l'accident cérébrovasculaire. Ces enfants peuvent avoir un accident parce que ces globules rouges déformés vont se loger dans un vaisseau de la tête. Ça peut arriver. Donc, autant de signes qui peuvent faire penser à quelqu'un, ah, peut-être que mon enfant a cette anémie falciforme et il faut vraiment aller dans un centre. Et fort heureusement, comme nous disons, avec l'aide de la Fondation Fabre, outre ici, je pense que Véronique en parlera, nous allons multiplier les endroits qui pourront permettre aux soignants de faire les diagnostics précoces, de confirmer ce que les parents ont déjà, pour lesquels ils avaient déjà des signes.
Alors là, c'est quand les signes sont là, mais il y a après cette ambition du dépistage systématique, ça c'est autre chose. Ce n'est pas parce que la maladie, entre parenthèses, se déclenche à 6 mois, docteur Nora Saint-Victor, qu'on ne peut pas la détecter dès la naissance. Dès que le bébé est là, on peut savoir si oui ou non il est porteur, si oui ou non il a des risques de développer la maladie.
Exactement. Donc, c'est mieux pour nous d'avoir le diagnostic avant que l'enfant soit symptomatique. Comme ça, on pourra commencer à avoir un traitement précoce, ce qui diminue les complications à court et à long terme.
Hôpital pédiatrique Saint-Damien, ici, on entend bien toute cette activité autour de nous. Les parents viennent avec les bébés, ils viennent avec les enfants. Certains parents s'informent sur la maladie, ce qu'il faut faire, comment réagir. Ces parents qui deviennent aidants, ils repèrent les signes en cas de crise et ils accompagnent les enfants pour la prise en charge. Reportage.
Je suis avec mon fils, il souffre de l'anémie falciforme et il a 3 ans. Bon, c'est pour la première fois qu'on vient ici depuis que j'ai appris qu'il a fait l'anémie falciforme.
Et vous l'avez appris quand qu'il avait cette maladie ?
1 an.
Et donc aujourd'hui, vous êtes venu parce qu'il y avait eu une crise ?
Il y avait une douleur au niveau de l'estomac, très forte douleur. Et puis après, c'est au niveau de l'abdomen. Avant, je ne savais pas si c'était à cause de l'anémie. Je pensais qu'il avait tombé. Et c'est arrivé à l'hôpital. J'ai dit au docteur qu'il a fait l'anémie falciforme. Elle m'a dit tout de suite, c'est à cause de ça. Et puis je viens tout de suite ici. 15 jours que je suis ici.
Et vous êtes contente du traitement qu'il reçoit ici?
Oui, je suis contente parce qu'il n'est pas... Il commence à faire mieux. Il n'a pas de douleur. La fièvre a baissé. Ça. Je suis contente.
Bon, pour les raisons que ici et jeudi...
Je suis venu ici parce que j'ai mon fils... Et Sam Lovensky, qui est malade, qui souffre de l'anémie falciforme. Depuis 2 ans, je vais régulièrement à l'hôpital de la commune des Fonds des Blancs, mais jusqu'ici, je ne suis pas satisfait. Certaines fois, il m'arrive d'avoir des soulagements, mais ce n'est pas encore ça. Il arrive que mon fils Lovensky ait des crises aiguës et pendant 15 jours, elle a de fortes douleurs et de la constipation aussi. Et 15 jours après, ça se pourrait que ça aille mieux, mais il y a aussi la directrice de son institution qui m'a conseillé de venir ici dans cet hôpital. Et c'est ce que j'ai suivi, les conseils, et il faut dire que c'est pourquoi qu'on m'a prescrit pas mal de médicaments. Et là, pour l'instant, ça va mieux. Et quand je suis arrivé, on m'a dit qu'il est urgent qu'il soit hospitalisé car son cas nécessite un traitement à long terme. Je suis là depuis mardi dernier et je peux dire, vu son état, quand on était venu ici, il y a une certaine amélioration. Parce qu'il y avait de fortes douleurs, il souffrait et il faut dire aussi que c'est la grâce de Dieu et je lui en remercie.
Et ça, c'est grâce à mon Dieu. Moi, mon Dieu, merci tout le monde. Grâce à...
Il a quel âge, votre fils?
4 ans.
Et est-ce que vous avez d'autres enfants?
Oui, j'ai l'autre enfant encore. Mais...
Oui, j'ai 2 autres enfants. Et apparemment, tous les 3, ils souffrent de l'anémie falciforme. Mais il paraît que c'est Lovensky qui a le type le plus aigu.
Témoignage recueilli par Ophélie Lassen. Véronique Tessier, dépistage systématique. Pour l'instant, c'est un projet, mais en fait, ce projet, il est en train de prendre corps. Il y a des étapes très concrètes qui ont été franchies, parce que pour dépister, il faut le matériel, tout simplement.
Tout à fait. Donc, c'est vrai qu'on a débuté notre partenariat avec l'hôpital Saint-Damien il y a un an maintenant. Et la première phase, c'était d'équiper le laboratoire donc de l'hôpital et de former la responsable du laboratoire et les techniciens justement à utiliser ces équipements pour faire du dépistage. Saint-Damien sera un pilote pour le dépistage néonatal, mais à terme, on étendra ce programme aux 2 grands hôpitaux publics de Port-au-Prince, donc l'hôpital universitaire d'État d'Haïti et l'hôpital universitaire de la Paix. Et on espère à terme aussi pouvoir l'étendre à d'autres structures en région avec l'aide éventuellement des centres GESCIO qui nous avaient aussi manifesté leur intérêt à mettre en place le dépistage et la prise en charge de ces enfants au sein des centres qu'ils ont dans leur région.
Question très concrète, mais c'est important, Véronique Tessier. Ça coûte cher, ce matériel?
Le matériel coûte cher, oui, effectivement.
Est-ce qu'il est fragile? Est-ce qu'il y a tout un travail aussi après de maintenance?
Alors, il y a un des appareils qui nécessite une maintenance vraiment importante. Celui qui sera utilisé, ce qu'on appelle en première intention, donc pour faire les dépistages systématiques de tous les enfants, celui-ci ne nécessite pas de maintenance.
Alors, il faut dépister tous les enfants, c'est important pour la prise en charge, c'est important pour savoir où en est la maladie. Dans la Caraïbe, le département français de Guadeloupe a mis en place ce dépistage systématique. Qu'est-ce que ça a apporté en termes de traitement?
Alors, c'est vrai que les départements français des Amériques et la Guadeloupe, en l'occurrence avec un centre de référence de la drépanocytose, le dépistage a lieu depuis maintenant 30 ans systématiquement pour tous les enfants qui naissent dans les hôpitaux des départements français. Donc effectivement, ça permet une meilleure prise en charge et à terme de diminuer la fréquence des crises chez ces enfants.
Quand on parle du paysage sanitaire haïtien, on parle souvent de la disparité des territoires, beaucoup de choses concentrées à Port-au-Prince, dans la capitale. C'est beaucoup plus compliqué de se faire soigner quand on habite loin de la ville. Est-ce qu'il y a justement dans les zones rurales, au Gonaïves, à Jérémy, comment est-ce qu'on fait quand on a la drépanocytose? Comment est-ce qu'on fait déjà pour faire dépister son enfant? Est-ce que c'est possible, Véronique Tessier? Est-ce qu'il y a les recours?
Je sais qu'il existe d'autres programmes qui ont été mis en place dans plusieurs régions. Le docteur Gauthier en parlera mieux que moi parce qu'elle les connaît très bien. Effectivement, en dehors de ces programmes qui ont été mis en place, il n'y a pas de dépistage systématique et le dépistage se fait à l'occasion d'une crise et sous réserve que le soignant qui accueille cet enfant puisse identifier que c'est bien une anémie falciforme et pas une infection ou une autre pathologie.
Docteur Jacqueline Gauthier, on parle beaucoup d'inégalités territoriales ici en matière de soins en Haïti. C'est vrai aussi pour la drépanocytose?
C'est vrai, mais c'est en train de changer. Heureusement, nous nous mettons en réseau, nous faisons des conférences où nous partageons nos expériences. Il y a deux endroits qui ont commencé un peu le dépistage néonatal, comme nous allons le faire, c'est au Cap-Haïtien, la deuxième ville du pays, et aussi à l'hôpital universitaire de Mirebalais, au centre du pays. Et de plus en plus, nous incitons au sein de ce réseau où nous faisons le partage d'expériences et aussi à travers la Société haïtienne de pédiatrie, nous incitons d'autres partenaires locaux à vraiment commencer à se joindre à nous pour commencer le dépistage. Et nous avons appris récemment qu'un département qui est toujours considéré comme vraiment un département vulnérable, la Grand'Anse, ils sont intéressés à commencer un programme d'anémie de dépistage.
Alors, on revient à Saint-Damien avec vous, docteur Nora Saint-Victor, pour ce dépistage systématique qui va se concrétiser dans les prochains mois, les prochaines semaines. Combien de naissances seront concernées ?
Actuellement, on a à peu près 200 naissances par mois, mais en tout, parce qu'on ne va pas seulement dépister les enfants qui viennent de la maternité, on va dépister les enfants qui viennent recevoir des soins en vaccination et en clinique externe. Donc, en tout, ça fait 400 prélèvements, mais la maternité à peu près 200 naissances par mois.
Donc, on aura 200 tout petits bébés, docteur Jacqueline Gauthier, 200 autres environ,
200
enfants
qui viennent pour l'immunisation, ou bien qui se présentent pour n'importe quelle autre raison à l'hôpital, pour des soins ambulatoires ou bien pour des soins d'hospitalisation. Alors, je veux dire, il y a un des points sur lequel nous ne sommes pas étendus assez, peut-être, c'est l'opportunité de prévenir les maladies grâce à la vaccination, particulièrement avec un vaccin qui coûtait cher et qui n'était pas disponible dans le calendrier national de vaccins et qui est devenu disponible depuis octobre dernier. Et c'est un vaccin qui protège contre les infections à streptocoque. C'est un germe banal, mais qui est vraiment létal pour les enfants avec anémie falciforme. Et fort heureusement, grâce à certains partenariats, le gouvernement vient d'introduire en octobre 2018 ce vaccin dans le calendrier national. Donc, ça fait une opportunité pour ces enfants qu'on aura dépistés tôt d'être protégés contre les infections à pneumocoque.
Docteur Jacqueline Gauthier, la typhoïde est aussi assez fréquente en Haïti. Qu'en est-il de la vaccination contre la typhoïde?
La vaccination, pour le moment, n'est pas accessible à tout, ne fait pas partie du calendrier vaccinal. Cependant, nous voyons une petite amélioration avec des efforts particulièrement musclés que nous avons faits autour du choléra. C'est une maladie qui s'attrape par les mains sales. C'est une maladie fécale-orale, donc par les selles, les germes viennent des selles. Vu que nous avons fait beaucoup d'éducation pour prévenir le choléra, nous avons donc d'autres maladies en ont vraiment bien bénéficié et nous voyons une légère diminution. Mais vous avez raison, nous n'avons pas encore introduit ce vaccin dans le calendrier national.
Rachel, tu sais que tu es malade. Est-ce que tu as conscience d'être plus fragile que les autres? Est-ce que tu fais plus attention que les autres enfants à ta santé? Par exemple, tu te laves particulièrement bien les mains, tu fais bien attention, par exemple, si tu t'es blessée, à bien te soigner. Est-ce que tu as des soins particuliers de cet ordre?
Oui, le docteur Larbeau, elle m'explique toujours ce que je dois faire. Par exemple, les vacances dernier, les grandes vacances, j'étais à une activité. Ma maman est allée demander la permission est-ce que je pouvais faire le sport. Elle a expliqué à ma maman que non, je pouvais seulement pratiquer du yoga.
Rester bien calme, te détendre. Est-ce que ça t'énerve des fois justement de ne pas pouvoir faire les choses comme les autres?
Oui, des fois parce que moi j'aime bien le basket. J'aime jouer avec mon frère. Et oui.
Est-ce que des fois, tu as l'impression d'être trop protégée, par exemple, par ta maman, mais aussi par tes médecins? Tu aimerais pouvoir tout faire comme les autres et tu te dis, ils sont toujours derrière moi en me disant, tu peux pas faire ci ou tu peux pas faire ça? Ou plutôt, tu te dis, ils pensent à moi, ils font ça pour mon avenir, pour que je puisse justement faire plein de projets demain?
Il y a des fois, je dis, ils pensent à moi, tout ça. Mais il y a des fois aussi que je dis, ils sont toujours derrière moi, des fois.
Est-ce que tu arrives maintenant à contrôler ta maladie? Je veux dire par là, est-ce que tu reconnais les signes? Tout à l'heure, tu nous as dit 4 ans sans signes, c'est une bonne chose. Mais est-ce que, si par exemple, tu te sentais mal, est-ce que tu saurais dire, attention, là, il faut que j'arrête, il faut que j'en parle, il faut que j'aille à l'hôpital?
Oui. Et aussi, quand je sens quelques signes, Je prends du paracétamol pour que ça puisse un peu diminuer. Je dis ça à ma maman ou mon papa.
Docteur Nora Saint-Victor, justement, reconnaître les symptômes, savoir réagir. Qui dans l'équipe médicale est chargé de cette phase de sensibilisation?
Ce counseling, il est offert par l'infirmière qui fait la clinique externe et puis moi aussi je participe. Donc il faut à chaque consultation rappeler les parents. Donc de reconnaître les signes et les symptômes de la maladie et puis en cas de signe d'alarme de venir consulter. Donc c'est toute une équipe.
C'est toute une équipe. Véronique Tessier, c'est important aussi, y compris dans un programme, on a compris, qui est financier, qui est philanthropique, mais d'avoir le cœur de l'information sur la maladie et de transmettre, en l'occurrence aux enfants, ces bons réflexes pour et aussi aux parents bien sûr, pour savoir comment réagir.
Oui, c'est primordial de permettre aux parents aussi de pouvoir reconnaître les signes et ce qui leur permet surtout de pouvoir prendre en charge à domicile leur enfant et de pouvoir jauger justement l'intensité de la crise de leur enfant et éviter peut-être de les amener à l'hôpital parce que c'est aussi douloureux. Enfin, c'est un fardeau pour les familles des enfants qui sont continuellement malades, qu'il faut amener à l'hôpital. Donc la famille pourra prendre en charge ses enfants à domicile et connaître la maladie et savoir justement à quel moment il faut référer cet enfant à l'hôpital, l'amener à l'hôpital de toute urgence pour une prise en charge adaptée. C'est vraiment très important et ce travail peut se faire aussi en relation avec la société civile et les associations où là, elles ont vraiment tout leur rôle à jouer en accompagnement du personnel soignant pour accompagner les familles dans cette démarche d'apprentissage de la connaissance de la maladie de leur enfant.
Alors justement, cette sensibilisation, elle peut être faite en dehors des structures de santé. Je pense en particulier à une brochure très détaillée, très claire, qui a été proposée par l'association d'anémie falciforme d'Haïti à destination des directeurs d'école, des enseignants. Elle pose les fondamentaux, les définitions, les implications, les signes, conséquences aussi pour la scolarité. On mettra d'ailleurs le lien de l'association sur le site de Priorité Santé. C'est très important, docteur Nora Saint-Victor, de ne pas limiter l'information sur l'anémie falciforme au seul cadre hospitalier. Il faut que la maladie sorte des murs de l'hôpital.
Effectivement, nous organisons des séances de sensibilisation. Par exemple, l'année dernière, on a utilisé ces mêmes brochures, on a distribué à tous les parents qui ont fréquenté la clinique externe, pas uniquement les parents des drépanocytaires. Donc, l'idée, c'est de sensibiliser les parents pour diminuer aussi la discrimination, parce que parfois, ils pensent que ton enfant a la drépanocytose, qu'il ne peut pas s'asseoir. Donc, c'est diminuer.
Il n'y a pas de contagion.
Il n'y a pas de contagion.
Des fondamentaux.
C'est ça.
Et justement, Rachel, toi, tu en parles à l'extérieur de Saint-Damien. Est-ce que tu l'as dit à tes camarades de classe, par exemple?
Presque toutes mes camarades de classe savent que je suis anémie.
Parce que c'est une maladie, on l'a compris, on a essayé d'être clair, mais c'est quand même assez compliqué. Est-ce que tu as ressenti à certains moments, chez certains enfants, quand tu leur en as parlé, une sorte de... Ils posaient des questions ou ils étaient un peu inquiets. Est-ce que tu as dû, en fait, toi qui es malade, rassurer les autres?
Oui, des fois, je leur dis que c'est pas trop grave, que je suis sur traitement, ça ne va pas s'aggraver, je les rassure. Comme par exemple, elles me disent, est-ce que je ne vais pas mourir à 18 ans? Je leur ai dit non, je pense pas, parce que je suis déjà sur un traitement, je pense pas que je vais mourir à 18 ans.
Mais cette question, c'est parce qu'ils ont entendu dire ça à l'extérieur. Ils ont dit, oh là là, les enfants qui ont ça, ils vivent pas longtemps, alors qu'aujourd'hui, ce n'est plus la réalité. Et ça, tu le sais.
Oui.
Surtout quand on est bien soigné dans un bon hôpital.
Oui.
Donc, tu es rassurée sur ton avenir par rapport à ça.
Oui.
Véronique Tessier.
Et juste par rapport justement à cette sensibilisation, je voudrais rappeler qu'il existe une journée mondiale de la drépanocytose qui est donc le 19 juin de chaque année. Et en général, dans nos programmes et avec tous nos partenaires, nous organisons des événements à cette occasion, des émissions de radio, de télévision, des sensibilisations aussi ouvertes au grand public et des sensibilisations dans les écoles auprès des enseignants. Et c'est un moyen aussi de faire connaître cette maladie et de vraiment porter l'information au plus grand nombre.
Et de lever aussi des fausses croyances. Docteur Jacqueline Gauthier, c'est douloureux ce que vient de dire Rachel, avoir des enfants comme ça autour de nous qui disent bah, « finalement, t'es condamné » et leur dire « ce n'est pas vrai, on fait des choses, il y a des traitements et ça marche ».
Et ça marche. Et il y a même des espoirs encore plus grandioses de le traiter complètement grâce à une transplantation de moelle.
Donc la recherche, il travaille aussi beaucoup.
La recherche, il travaille pour voir si on peut carrément guérir certains cas, mais ce n'est pas encore accessible. Mais ça veut dire qu'à certains moments, on pourra vraiment guérir complètement de l'anémie falciforme.
Et ici, en tout cas, grâce à ce projet, on rend accessible non seulement le dépistage, mais aussi un certain nombre de traitements. C'est quelque chose de très important, cette dimension financière, quand on connaît le contexte social d'Haïti. C'est quelque chose qui est absolument fondamental, docteur Jacqueline Gauthier.
Tout à fait. C'est un des réconforts que le parent, lorsqu'il arrive ici, a, puisque l'accès aux soins en Haïti est un gros problème. Ici, la participation que nous demandons aux parents, ils ne sont pas obligés de la donner dès l'admission. Ils peuvent prendre leur temps, il y a l'exéa de l'enfant, contribuer financièrement. Donc il n'y a pas un souci de recevoir des prescriptions pour aller acheter ci, pour aller acheter ça, parce que malheureusement la majorité des autres hôpitaux sont obligés de passer par un recouvrement de coûts progressif plutôt que de pouvoir attendre. Grâce à nos partenaires, nous pouvons vraiment offrir des paquets de soins où la personne reçoit le soin d'abord, quelle que soit la maladie, et ensuite contribue.
On parle du contexte social, il y a un autre aspect, et ce n'est pas un cliché, c'est de savoir où va l'argent qu'on investit. Il y a aussi des détournements de fonds qui peuvent arriver dans certains contextes. Véronique Tessier, comment, quand on finance des projets qui sont aussi coûteux, on s'assure justement que notre investissement arrive à bon port ?
Alors, c'est vrai que ça arrive très souvent. Nous, on travaille vraiment avec des partenaires qui sont fiables, qui ont déjà montré une expérience et une probité dans leur intervention. Et on essaye le plus possible d'être opérateur, c'est-à-dire qu'on n'est pas une fondation distributrice. On est vraiment au cœur du terrain. Je viens régulièrement ici en Haïti travailler avec le docteur Gauthier, avec le docteur Saint-Victor, rencontrer les autres médecins. La Société haïtienne de pédiatrie qui est très investie aussi sur ce programme. Et nous essayons donc de financer le plus possible, au plus près, et en accompagnant vraiment nos partenaires.
Docteur Nora Saint-Victor, le jour du dépistage systématique, il est fixé ou c'est encore pas tout à fait sur la date ?
Donc là maintenant, on a déjà la machine. Donc on est sûr qu'on va débuter d'ici mars, mais on n'a pas encore fixé vraiment une date exacte pour le démarrage.
Je vais te laisser le mot de la fin, Rachel. C'est quoi tes projets ? Là, tu es en 9e année, c'est ce qu'on m'a dit ici en Haïti.
Oui.
C'est l'équivalent de la troisième, la dernière année en tout cas du collège en Europe ou en Afrique. C'est quoi tes projets ? Tu as envie de faire quoi ? Tu es plutôt une scientifique, une littéraire ?
J'aimerais devenir avocate.
Tu voudrais défendre qui ?
Les gentils.
Les gentils ? Et dans la vie, tu as des projets pour la famille ? Un prince charmant, un amoureux, fonder une famille ? Tu t'imagines avec une belle vie devant toi ?
Oui.
En tout cas, on peut remercier les médecins qui t'ont redonné confiance parce que c'est très important. Voilà, notre émission s'achève. Merci à toutes d'avoir partagé vos expériences, vos connaissances et votre expertise en de soignants comme de jeunes patientes sur cette anémie falciforme, sa prise en charge ici en Haïti. Merci bien sûr à l'équipe de l'hôpital Saint-Amien de Tabar. Docteur Jacqueline Gauthier, merci beaucoup. Directrice nationale de santé, docteur Nora Saint-Victor, coordinatrice du projet de dépistage néonatal de l'anémie falciforme. Et merci à vous, Véronique Tessier, responsable des programmes de la Fondation Pierre Fabre. Une nouvelle fois, on te dit merci Rachel, hein, merci beaucoup. C'est pas toujours facile de parler de sa maladie et on te souhaite que tous tes projets prennent forme. Priorité santé à l'hôpital Saint-Damien de Tabar avec le soutien de la Fondation Pierre Fabre. Émission préparée par Ophélie Lassène avec Marc Kingtoff Casimir, réalisée par Victor Hull. Demain dans Priorité santé, toujours à Port-au-Prince, nous parlerons de l'alimentation et de la malnutrition. On se donne rendez-vous à 9h10 temps universel et on espère que vous serez tous là à l'écoute de RFI ou que vous soyez dans le monde.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Comme les heureux retraités, assurez dès maintenant vos vieux jours avec l'assurance retraite. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.